Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Échos de l'innovation, diffusé par la radio Graphite sur la fréquence 94.9. Ces émissions sont le produit d'un projet d'étudiants de l'UTC. Et donc au cours de ces émissions, on va explorer divers thèmes tels que la société, l'économie, l'écologie et bien d'autres en les présentant sous un nouvel angle. On va aborder ces sujets en les confrontant à la science à travers des chroniques, des jeux et des petits débats. Après un épisode sur le cinéma, un sur la religion et un sur les dérives de la technologie et de l'intelligence artificielle, aujourd'hui l'épisode sera davantage dédié à l'écologie et nous aborderons plus en détail les scénarios de l'Agence de la transition écologique, aussi connue sous le nom de l'ADEME. Je ne suis pas seule pour animer cette émission, je serai accompagnée de mes fidèles et talentueux collègues, Jason.
Bonjour.
Margot.
Hola.
Louis.
Salut.
Jason.
C'est
merde,
encore moi.
Pardon. Mehdi.
Oui, salut.
Et Oscar.
Salut.
Et il y aura Souleymane qui va nous rejoindre d'ici peu. Et nous avons également le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Étienne, membre de l'association Compiègne en transition, une association de l'UTC que nous aurons l'occasion de présenter plus tard dans l'émission. Merci à toi, Étienne, d'accepter l'invitation.
Salut.
Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous est tous familiers et qui représente dorénavant un enjeu majeur au sein de notre société, la protection de l'environnement. Les différentes chroniques au programme exploreront divers aspects de l'écologie, liés ou non au métier d'ingénieur. Au fil de cette heure, à travers différents arguments et débats, nous vous interrogerons sur ce que pourrait être l'avenir de demain et si l'ingénierie peut comprendre et intégrer de manière efficace dans ses applications la problématique environnementale. Ma brève introduction est terminée. C'est désormais l'heure de se tenir au jour des actualités de l'UTC. Jason va donc nous présenter un des derniers sujets d'actu et qui pour cet épisode ne s'arrête pas aux frontières de notre école, mais implique aussi la ville de Compiègne, la région, et on peut même dire que c'est un sujet d'ampleur nationale. Mais d'abord, place au jingle.
Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'une actualité qui fait rage dans notre école, l'Université technologique de Compiègne, le canal Seine-Nord-Europe. Des étudiants de l'UTC ont créé un collectif dans le but d'arrêter le partenariat entre l'UTC et ce canal. Pourquoi ils veulent endiguer ce projet? Tout est expliqué sur une publication Instagram que vous pourrez retrouver sur le compte stopcanal-UTC et que je vais à présent vous lire. Donc ils ont soulevé 7 arguments contre le canal Seine-Nord-Europe. Mais déjà, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment que ce canal. Ce canal, c'est un projet de liaison fluviale de 107 km entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac pour des péniches à grand gabarit, environ 185 mètres de long sur 16 mètres de large. Comme le projet Mageo, qui est la mise au gabarit européen de l'Oise, qui vise à agrandir l'Oise entre Compiègne et Creil, c'est un maillon de liaison entre Paris et les ports du Nord, dont Anvers et Rotterdam. Mais ce canal, en fait, il pose de nombreux problèmes environnementaux, sociaux et économiques. Pour commencer, le premier problème, c'est sur la biodiversité. Plus de 2500 hectares d'emprise au sol, des dizaines d'espèces protégées et exterminées, 5 millions de mètres cubes de terres végétales excavées, un bras de l'Oise rebouché. Ce projet, c'est une véritable bombe environnementale. Les opérations de compensation écologique dont l'inefficacité a été prouvée par des études scientifiques ne sont qu'un leurre pour cacher le drame qui se trame sur les bords de l'Oise. Ensuite, un deuxième gros problème, c'est l'eau. Le projet y prévoit une retenue d'eau de 14 millions de mètres cubes, soit 22 fois le volume de la méga bassine de Sainte-Soline qui a pourtant fait un énorme débat. Alimentée par l'Oise, elle pourrait perturber le remplissage des nappes phréatiques, alors que les bassins versants de l'Oise sont fréquemment en alerte sécheresse. Notre région agricole connaît déjà des conflits d'usage d'eau qui seront amplifiés par l'intensification du dérèglement climatique. Ensuite, c'est un report modal inexistant. Le canal y prétend pouvoir désengorger l'A1 en transférant les marchandises transportées par des camions sur des péniches. En réalité, le canal il sera plus en concurrence avec le réseau ferroviaire, pourtant moins polluant que le réseau de camions. 40% du trafic du canal viendrait du rail et seulement 3% du trafic actuel de l'A1 pourrait être pris en charge par le fluvial. Le canal, en fait, il va simplement massifier le flux de marchandises, générant des effets rebonds qui annuleront toutes les économies espérées. C'est aussi une aberration démocratique. En effet, si comme moi, vous êtes étonné de jamais avoir entendu parler de ce projet, eh ben, en fait, il a été déclaré d'utilité publique il y a plus de 15 ans. Le canal il a fait l'objet donc, de peu de débats publics. L'enquête publique réalisée dans le cadre du projet Mageo est éloquente. Seuls 105 habitants se sont prononcés, dont 27 favorables, ce qui fait une partie infime de la population, c'est moins de 0,1%. C'est aussi une menace pour l'économie, parce qu'il y a 5 milliards d'euros d'argent public qui sont déboursés, il y aura des suppressions d'emplois, ça permet l'ouverture à la concurrence étrangère, et des hypothèses de rentabilité jugées irréalistes par la Cour des comptes européennes, le canal menace également notre économie. On ne relocalisera rien en accélérant toujours plus le flux. Et enfin, c'est un cadre de vie qui est complètement détruit. Il menace directement le quotidien des habitants de la Somme et de l'Oise. S'il est encore difficile de mesurer tous les impacts, nous pouvons d'ores et déjà dire adieu au club d'aviron, par exemple, à Compiègne, ou à la spectaculaire course des baignoires dans l'Oise et aux péniches bucoliques. Les travaux généreront des nuisances pendant des années et les berges de l'Oise seront modifiées à jamais. Et pourtant, malgré tout cela, il y a des alternatives qui existent. Le canal existant il est largement sous-utilisé. Nos décideurs s'entêtent dans ce projet destructeur pourtant. Et les autres alternatives, ce serait plutôt renforcer le réseau ferroviaire, investir dans l'entretien et le développement des canaux existants ou repenser les flux de marchandises. Vous aussi vous pensez que le projet est aberrant et vous souhaitez aider à arrêter le chantier du canal, je vous laisse vous rendre dans la bio du compte Instagram stopcanal-UTC où vous pourrez signer une pétition. Nous sommes en présence d'un des étudiants du collectif. Je sais que moi je ne comprenais pas pourquoi ce sujet il n'était pas plus présent dans les médias actuellement par exemple. Est-ce que tu pourrais nous éclairer ?
Ouais, alors je pense qu'il y a un peu plusieurs raisons, à la fois parce que c'est un chantier qui est très ancien, donc qui remonte au moins 35 ans, et donc un peu les gens, soit ils se sont un peu habitués à ce sujet-là, en fait, à avoir l'idée qu'il y aurait un canal qui devrait arriver, mais en fait ils ne le voient pas arriver, donc bon, ils s'en désintéressent un petit peu. Soit également, tellement ancré dans les consciences qu'on en vient vraiment un peu à l'oublier, à le considérer aussi comme... ça fait tellement longtemps qu'ils nous disent qu'on va avoir le droit à ce canal que de toute façon, ils vont le faire. Ça fait tellement longtemps que les politiques en parlent que c'est bon, on ne peut plus rien faire pour s'y opposer. Donc je pense qu'il y a un peu la longévité du canal qui explique un peu le manque de contestation. Mais il y a également le fait que on est actuellement dans une terre picarde qui est très peu militante, ou du moins bien moins militante que peuvent être les territoires bretons ou même dans le Marais Poitevin pour parler des méga-bassines. Et il y a aussi un peu une volonté très claire de la part des sociétés, de la société du canal, de ne pas trop réaliser de débats. Je vais citer l'exemple du projet Mageo. Donc le projet Mageo, c'est vraiment ce qui va de pair avec le projet du canal Seine-Nord-Europe. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et donc dans le projet Mageo, il a été décidé de ne pas faire de débat public. Ça a été écrit formellement, on ne va pas en faire. Alors que bon, on pourrait se dire, pour un projet qui concerne 100 000 habitants, qui va modifier profondément les berges de l'Oise, qui va détruire notamment le petit îlot Aura qui se situe à Compiègne, ça va complètement toucher les habitants de Compiègne et on dit que non, pas besoin de faire un débat public. Donc pour moi, c'est un peu les raisons qui expliquent la forme d'oubli de ce très très grand projet qui pourrait être sujet à plus ample contestation. Pardon.
Ça marche très bien, mais en tout cas c'est super que vous remettez ce sujet sur le devant de la scène pour qu'on se rende vraiment compte de ce que ça va, impacter notre vie à l'UTC par exemple.
Voilà. Merci beaucoup Jason pour cette actu. et d'avoir introduit le thème d'aujourd'hui. Passons maintenant à la première chronique dédiée aux quatre scénarios de l'ADEME qui va être présentée par Oscar.
Tout à fait, merci. Alors, du coup, premièrement, je vais présenter ce que c'est l'ADEME, parce que c'est un acronyme, mais ça veut dire beaucoup de choses. Alors, c'est une agence publique. ADEME, c'est pour Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, mais elle est aussi appelée Agence de la transition écologique. Donc, cette agence publique est reliée à l'État français. Elle a été créée le 28 juillet 1991 et elle est actuellement dirigée par Sylvain Wasserman, qui est un politique qui a été député et vice-président de l'Assemblée nationale et qui est au mouvement démocrate. Le budget de l'ADEME en 2023, c'est 4,2 milliards d'euros, donc c'est quand même une agence qui compte pour beaucoup dans la transition écologique en France. À titre indicatif, c'est deux fois plus qu'en 2022, et c'est aussi, le budget de 2022 était aussi deux fois plus qu'en 2021. Donc c'est un budget qui est en forte augmentation, évidemment parce qu'on se rend de plus en plus compte de l'importance des sujets environnementaux en ce moment. L'ADEME, elle s'occupe de plusieurs choses. Ça peut être la qualité de l'air, l'énergie, les déchets non radioactifs et plein d'autres formes de pollution. Les choses dans cette catégorie dont elle ne s'occupe pas, c'est la maîtrise de l'eau, la maîtrise des risques et les paysages, qui sont gérés par d'autres agences. C'est une agence également qui a beaucoup de partenaires, que ce soit dans le public ou dans le privé, et qui a un fonds d'investissement également pour les entreprises qui vont dans la direction de ces projets. L'ADEME, elle a établi quatre scénarios qui permettraient, selon ces chercheurs, d'arriver à remplir les accords, les choses qui sont requises par les accords de Paris d'ici la date limite. Alors, le premier scénario, ils ont tous un petit nom. Le premier, c'est génération frugale. Alors, ce scénario, il consiste en la réduction principalement de l'empreinte directe des humains sur Terre et de l'empreinte anthropologique. Il se caractérise par des fortes baisses dans différents secteurs de nos habitudes actuelles, comme par exemple la réduction de la consommation de viande de 70%, la réduction de 30% de la surface des maisons neuves, des maisons individuelles neuves, et par exemple le changement du marché pour que 70% de l'acier, de l'aluminium, du verre, du papier, du carton et des plastiques viennent du recyclage. Donc en fait, c'est énormément de changements dans nos habitudes et dans nos modes de fonctionnement pour pouvoir réduire au maximum notre empreinte carbone. Le deuxième scénario, il s'appelle coopération territoriale. C'est un peu un entre-deux qui permettrait de remettre en avant les coopérations locales, tout ce qui est de s'aider entre habitants pour réussir à arriver à cet objectif. Donc là, on demande d'atteindre 50% de réduction de la consommation de viande. On veut réduire de 17% la distance parcourue par personne. Donc ça, c'est encore une fois dans cette idée de local. Ce serait pour que les gens se concentrent plus sur leur région et ce qui se passe autour de chez eux plutôt que... Enfin, en fait, c'est un petit peu réduire la mondialisation en termes physiques. Ça serait pas... tout ce qui est sur Internet, etc., les échanges de données, d'informations, ça peut continuer, mais tout ce qui est parcours des distances, ça doit être limité. Et pour tout ce qui est le recyclage, on veut que 80% des matériaux que j'ai cités précédemment viennent du recyclage. Le troisième scénario s'appelle technologie verte. Et donc ici, on essaye un peu plus d'utiliser des technologies qui vont nous permettre de réduire notre empreinte carbone. Et ça permet d'éviter un peu que nos habitudes actuelles soient remises en cause. Donc ici, c'est les les manières de vivre se rapprochent beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui, mais de manière plus sobre. Et tout ça qu'on remet en parallèle avec des technologies diverses pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc pour récupérer les chiffres que j'ai cités précédemment, ici c'est 30% de réduction de consommation de viande. On voit que la consommation de viande est très mise en avant par l'ADEME parce que c'est quelque chose qui a un fort impact environnemental. Il y a aussi une importance de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Donc ici on veut réduire de 86% ces émissions. Et pour ce qui est du recyclage des matériaux, c'est une réduction, enfin un 60% du marché qui devrait être venir du recyclage. Et enfin, le quatrième et dernier scénario, ici c'est un scénario qui s'ancre encore plus dans la technologie et dans les nouvelles méthodes. Donc l'idée en fait, c'est de changer le moins possible nos façons de vivre, mais en utilisant des nouvelles technologies qui permettraient de limiter notre impact écologique. Le problème de ce scénario, même si ça serait bien de garder, enfin ça pourrait être plus simple pour tout le monde de garder son mode de vie actuel, c'est que c'est des technologies qu'on n'a pas forcément. Et donc c'est le pari réparateur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est capable d'atteindre ce scénario. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Enfin, c'est un objectif possible. Et du coup, ici, l'idée, ce serait déjà de réduire de seulement 10% la consommation de viande. Donc selon l'ADEME, en tout cas selon ces scénarios, ce ne serait pas possible par contre de garder vraiment les mêmes modes de vie qu'on a actuellement. Dans tous les cas, c'est un changement dans les modes de vie, mais en fait l'échelle se fait plutôt sur est-ce qu'on change beaucoup les modes de vie et qu'on se concentre sur ça, ou est-ce qu'on essaye de trouver des technologies parallèles pour atteindre nos objectifs et que donc on peut garder des modes de vie assez proches de ce qu'on a actuellement. Et ici, dans ce quatrième scénario, on demande également une réduction de la consommation énergétique dans l'industrie, c'est-à-dire de trouver des méthodes plus efficaces en termes de consommation énergétique afin qu'on puisse continuer nos modes de vie, mais que la baisse d'émissions se fasse sur un autre secteur avec des technologies plus efficaces. Donc voilà, c'est bon pour les quatre scénarios. On va pouvoir revenir dessus dans la suite de l'émission. Mais comme ça, vous avez une idée des propositions de l'ADEME et des scénarios qu'elle pourrait envisager. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment aller voir sur le site de l'ADEME, ADEME.fr, qui repasse plus précisément sur tous ces scénarios. Voilà.
Merci Oscar pour cette présentation. Et donc pour nos auditeurs, on est toujours sur la radio Graphite 94.9. On va désormais donner la parole à notre invité du jour. Est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que Compiègne en transition rapidement, s'il te plaît?
Ouais, du coup, moi, c'est Étienne. Je suis membre de l'association Compiègne en transition. Et donc, cette association, elle a pour vocation d'accompagner la transition socio-écologique de Compiègne et de l'UTC. Donc, ça passe par différentes activités, à la fois former les étudiants à des méthodes de permaculture, former les étudiants à la conception d'outils low-tech, mais également faire des événements pour sensibiliser, que ce soit des projections cinématographiques, des conférences ou des ateliers. Et également, ça passe par communiquer sur les différents médias des informations qu'on juge pertinentes afin de réaliser nos missions.
Génial. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience ou un projet environnemental sur lequel vous travaillez ou vous avez travaillé avec l'association ?
Alors, il y en a pas mal. On pourrait un peu déjà un peu dire ce qu'on a fait ce semestre. On a par exemple organisé un apéro engagé et on organise un nouveau le 7 décembre prochain. Le but de l'apéro engagé, c'est de réunir les étudiants UTC1 autour des thématiques socio-environnementales à travers une soirée dédiée à une thématique. Donc, la thématique du prochain apéro engagé, c'est l'écoféminisme. Et c'est de mettre autour de la table différentes associations afin qu'elles puissent partager leurs expériences, partager leurs visions à travers des ateliers. Donc voilà, pour l'écoféminisme, il y aura Stop VSS, il y aura Sciences Égales, il y aura Convergence autour de la thématique de l'écoféminisme. Et donc c'est abordé dans un cadre convivial des thématiques qui peuvent être méconnues, faire peur, mais qui sont très importantes si on veut réaliser la transition qu'on appelle de nos voeux.
Trop bien. Et tout le monde y est convié à cet
voilà,
événement ?
C'est ouvert à tous les étudiants, tous les professeurs. Bon, c'est un événement interne à l'UTC, mais c'est ouvert à tous les membres de la communauté UTCN. Ce sera le 7 décembre en soirée ABF.
Ok, génial. et j'aurais une question par rapport à la présentation d'Oscar. Qu'est-ce que tu penses personnellement des scénarios de l'ADEME? Et selon toi, est-ce que la société elle pourrait suivre d'ici quelques années le scénario le plus extrême, celui de la génération frugale par exemple?
Je pense que le scénario de la génération frugale, c'est un scénario qui est pas vraiment souhaitable par la plupart des gens, mais en tout cas c'est un scénario auquel on pourrait être amené, qu'on pourrait être obligé de suivre si les autres ne sont, si on n'arrive pas à atteindre les autres. Au contraire, par contre. Le scénario du pari réparateur, c'est un scénario plutôt qui serait potentiellement enviable par la plupart des gens. Seulement, c'est un scénario qu'on n'est pas sûr de réussir à atteindre. Donc, c'est un peu ça l'idée des quatre scénarios.
Ok, merci. Et comment, Étienne ? Pardonnez-moi. La question que je voulais poser ensuite, c'est Étienne, comment est-ce que tu envisages l'ingénierie du futur ? Parce que j'imagine qu'en tant qu'étudiant de l'UTC, tu crois en une ingénierie qui peut avoir un impact positif sur notre société, dans le sens d'une réduction de nos émissions et dans le respect de nos écosystèmes.
Ouais, alors déjà, voilà, pour moi, il faut bien comprendre aussi que dans les quatre scénarios qui nous ont été présentés, il y a un peu un biais, quoi. Nous, l'ingénieur classique, il serait plus d'accord avec le scénario 4, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est que des scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Donc vous pouvez avoir un monde où on a des super technologies pour capter le carbone, mais où toute la biodiversité est morte, c'est pas incompatible. Donc c'est vrai que moi, pour ma vision sur l'ingénierie souhaitable, pour moi, il faut d'abord comprendre que l'ingénierie, elle est toujours politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité dans ce qu'on fait et que toutes les techniques invitent un mode de vie. Quand vous développez des technologies pour capter le carbone, bah ok, c'est bien, d'un point de vue peut-être à première vue, on peut dire que c'est cool pour l'environnement, mais sauf que vous permettez aussi de ne remettre absolument pas en cause nos modes de vie, parce qu'on peut se dire « Ah bah de toute façon, c'est pas grave que je mange de la viande ou pas, il y aura des superbes puits à carbone, et de toute façon, je change pas mes habitudes de vie, etc. etc. » Donc, pour moi, l'ingénierie qui peut être la solution, bon déjà, ce sera pas la seule solution, loin de là, il faut déjà qu'elle arrête d'être une partie du problème. Et donc, ça commence à prendre en compte le fait qu'on est toujours politique quand on fait de l'ingénierie, et que, je voulais également ajouter sur le fait qu'on doit mettre notre ingénierie, nos compétences et savoir-faire techniques au service de valeurs qui sont écologiques et sociales. Et prendre en compte aussi le fait qu'on doit arrêter le technosolutionnisme. C'est une posture qui consiste à dire la technique va nous sauver de tous les maux que connaît la société humaine, qu'ils soient environnementaux mais aussi politiques. Et donc il faut qu'on ait conscience de tous ces biais-là pour avoir une ingénierie qui soit souhaitable.
Merci beaucoup pour nous avoir donné ton point de vue. Et merci d'être venu aujourd'hui pour passer du temps avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup avec Compiègne en Tradition notamment?
Voilà, on parlait de l'apéro engagé du 7 décembre. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc CETUTC sur Instagram et sur Facebook. Et puis peut-être on pourra se retrouver. Il y a peut-être un événement qui va se faire autour du canal dont parlait Jason tout à l'heure. Donc peut-être un événement le 16 décembre. Cela reste à confirmer, mais on vous en dira plus sur les réseaux sociaux.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va maintenant passer à une recosson. Je te laisse la parole, Mehdi.
Alors, je vais pas tarder et je vais directement vous lancer le son. Donc c'est un son de Yannick Noah. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu Yannick Noah. Célèbre de champion, le seul champion français de Roland-Garros, si je me trompe. Donc, Aux arbres citoyens de Yannick Noah.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De l'air en bas, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puis Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot, c'est vrai la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Merci pour cette pause musicale. Maintenant, on va te laisser proposer le jeu de l'émission.
Allez, le jeu. Alors, pour ce jeu, je vais demander à tout le monde de participer et ça va être un plus ou moins. Donc, en fait, je vais vous proposer deux éléments et vous allez me dire lequel de ces deux éléments pollue le plus. Donc, tout simplement, je vais commencer. Alors, d'après vous, lequel de ces deux véhicules possède le plus grand impact carbone lors de sa production? Un Hummer H3 de 11,8 litres pour 100 km ou un Toyota Prius hybride?
Moi j'aurais dit le premier, celui qui pollue le plus.
Et ouais, désolé de vous couper, j'ai directement répondu. Tu as raison, tu n'es pas tombé dans le piège. Nous avons bien écouté nos cours, notamment IS2 qui en parle beaucoup. Alors, en effet, il y a différentes méthodes pour étudier l'impact carbone d'un véhicule. Et parmi eux, il y a l'analyse du cycle de vie. Donc en fait, on va analyser l'impact carbone de chaque une des étapes de la vie d'un véhicule. À commencer par la production, puis vient la phase d'usage et la fin de vie. Et donc là, ça a été une étude très controversée, étant donné que ça a été ça a été utilisé dans la publicité du Hummer en disant oui, nous sommes plus écolo que le Toyota Prius. Alors que ce n'est absolument pas le cas, étant donné que si on s'arrête sur la phase de conception, effectivement, le Toyota a beaucoup plus d'impact, étant donné qu'il nécessite des métaux rares qui polluent beaucoup. Mais sur l'ensemble du cycle de vie, le Hummer est largement plus impactant sur notre planète. Alors, pour les prochaines questions, je vais enfiler ma toque de chef et je vais vous demander qu'est-ce qui a le plus d'empreintes entre un repas pour 4 personnes un repas pour 4 personnes avec une entrée de légumes à la grecque, un plat principal poulet riz et un plateau de fromage, ou alors une assiette d'un beefsteak frites.
Qu'est-ce qui pollue le plus? Moi, je dirais le beefsteak, quand même. Parce qu'on a pas mal ça dans les idées.
Bah, après, il y a du poulet, quand même, dans l'autre plat. Et vu qu'il y a 4 assiettes, je pense...
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Okay. Si on met beaucoup de poulet ou pas, quoi.
Voilà.
Alors, j'ai plus les doses exactes, mais il me semble qu'il y a un truc comme 150 ou 200 grammes de poulet. Ça vous aide ou pas?
Non, pas trop.
Bah là, c'est deux poulets, elle pollue plus alors.
Alors, vous avez fait le mauvais choix. Ah, parce que un seul beefsteak frite, avec seulement 150 grammes de beefsteak, c'est pas non plus, voilà, a plus d'impact que 4 menus composés d'une entrée, d'un plat et d'un fromage, et d'un plateau de fromage avec quand même du poulet. Donc c'est très impressionnant de voir que le bœuf a un impact colossal sur ce que l'on mange. Et cette fois-ci, j'ai poussé l'analogie en vous proposant un beefsteak frites ou alors un menu végétarien composé d'une soupe de légumes, d'omelette de pommes de terre et oignons et salade de fruits. Sachant que je ne vais pas en mettre un seul de repas végétarien, je vais en mettre 12. Est-ce qu'un beefsteak frites a plus d'impact que 12 repas végétariens complets?
J'ai une petite question par rapport aux fruits. Genre, c'est des fruits. Ils viennent d'où les fruits?
Alors, c'est une bonne question, auquel je n'aurai pas de réponse, mais c'est une salade de fruits et je suppose qu'elle a été considérée comme de saison.
Ok.
Bah, toujours le beefsteak, hein, je pense.
Ouais, moi je suis d'accord avec Jason.
Alors, j'ai un peu joué avec la question. 11 aurait eu moins d'impact, mais 12, le beefsteak a quand même moins d'impact que 12 repas végétariens. Mais 11 repas végétariens ont moins d'impact qu'un seul beefsteak frites. Donc, ce qui est colossal. On va changer un peu de thème, et donc je vais vous demander entre 40 heures de streaming sur Netflix ou 10 km en voiture. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus d'impact?
Ah, c'est une bonne question, parce que la voiture, ça pollue quand même pas mal, mais Netflix a toutes les entreprises de stockage là, des données, et ça pollue énormément. Donc j'aurais peut-être dit Netflix quand même, je sais pas.
Est-ce qu'on parle d'une voiture où on serait tout seul dans la voiture, ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans la voiture?
Je me rappelle plus des critères que j'avais employés, mais il me semble que c'était. Je pourrais plus vous redire. Mais c'est une voiture à essence. Ça peut peut-être vous aider.
Pas tellement, mais moi j'aurais dit la voiture quand même. Mm-hmm.
Bah, figurez-vous que c'est bien les 40 heures de streaming sur Netflix qui ont plus d'impact. C'est impressionnant. Moi aussi j'étais éberlué par cette stat. Parce qu'en fait, à savoir que le streaming pollue bien plus que de télécharger une vidéo et après de la lire ensuite. Et donc, le fait de consommer en direct, de vouloir toujours avoir sa série en direct, peu importe où on est, sans avoir à la télécharger, ça a un impact colossal sur l'environnement, avec une comparaison qui est remarquable. Ensuite, en train Paris-Lisbonne en avion, et cette fois-ci 500 repas végétariens, le même repas que tout à l'heure.
Bah, je pense que cette fois, t'as pas trop joué sur les mots, donc je pense que j'irai Lisbonne. C'est quoi déjà?
Paris-Lisbonne, en avion.
Paris-Lisbonne.
Ouais, pareil, moi aussi, j'aurais dit l'avion, parce que pour moi, ça pollue quand même beaucoup plus que le repas végétarien, si on considère que le repas végétarien est plutôt local.
Ouais. Et donc, il y a 500 repas végétariens, et voilà. Donc, je vais vous donner la réponse. Pour le Paris-Lisbonne, en avion, on compte 259 kg de CO2 équivalent. Alors que pour les 500 repas végétariens, on en compte 255, donc 4 kilos de moins. Ce qui est pas grand-chose, mais on peut se rendre compte que juste un seul trajet en avion, aller simple, pas aller-retour, aller simple, équivaut à presque 500 repas végétariens. Donc c'est vraiment important de considérer cela. Ensuite, Paris-Bruxelles en bus, ou alors Paris-Bruxelles en voiture électrique?
Si on prend le cycle de vie de la voiture électrique dans l'équation?
Tout est pris en compte.
Bah, je dirais le bus, parce que le bus, tu peux mettre énormément de personnes, donc si on prend à l'échelle d'une personne...
Donc le bus, c'est moins ou plus?
Moins.
Vous êtes d'accord autour de la table?
Ouais, moi je suis d'accord.
Ouais, et le bus fait près de 3,5 fois moins qu'une voiture électrique. Donc certes, c'est bien d'avoir une voiture électrique, c'est environ, sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est environ 2 fois moins qu'une voiture à essence, une voiture thermique, mais... il est quand même préférable d'utiliser dans ses trajets tous les jours les transports en commun, tels que le bus, le train, etc. Maintenant, je vais vous proposer un dernier dilemme. Admettons que j'habite à Compiègne et que je travaille à la Défense à Paris. Je fais mes trajets en voiture 5 jours par semaine. À l'inverse, mon collègue travaille entièrement en distanciel. À votre avis, est-ce qu'il va économiser plus ou moins de 10% sur son empreinte carbone annuelle en se déplaçant en voiture ou alors en travaillant en distanciel depuis chez lui?
Ouais, plus de 10%, je pense, quand même.
Vous pensez tous plus?
Bah, parce que les transports, ça représente, enfin la voiture, ça représente vraiment une grosse part de notre consommation de CO2, de nos émissions, pardon. Donc je pense vraiment que tu économises beaucoup.
Surtout que tu as dit qu'il y travaillait à Paris?
Ouais, à la Défense.
Il y a beaucoup d'arrêts et ouais, tout, et ça consomme le plus en plus.
Eh ben, étonnamment, c'est moins de 10%, mais c'est quand même 9,4%. Donc, oui, je chipote, j'ai pas pris des choses évidentes.
Hein.
Effectivement. Mais travailler depuis chez soi nous permet de faire des économies colossales. Je me rappelle plus des stats. Et il me semble que par semaine, par semaine, les trajets en voiture équivaut à 1242 kg de CO2 équivalent émis par semaine, alors qu'on compte environ 300 en distanciel. 300 kg. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté et on va passer à la suite.
Merci beaucoup Mehdi pour ce jeu, on a appris plein de choses super intéressantes. Et donc petit rappel pour les auditeurs, on est bien sur la radio Graphite sur la fréquence 94.9. On va continuer de s'éduquer ensemble sur la question environnementale avec une chronique préparée par Margot sur le greenwashing.
Donc en effet, pour cette chronique, nous allons parler de greenwashing. Donc tout d'abord, d'où provient le terme de greenwashing? Ce terme est apparu pour la première fois aux États-Unis à la fin des années 1980. C'est une contraction du terme whitewashing, qui signifie blanchir ou dissimuler une information, et du terme green, qui signifie littéralement en anglais vert, mais ici on va le prendre au sens d'écologique. Donc déjà, en quoi consiste le greenwashing? Le greenwashing, c'est une technique frauduleuse employée dans le domaine du marketing et de la communication, dans le but de donner une image de marque éco-responsable sans avoir donc à opérer les efforts nécessaires pour le devenir. Nous l'avons évoqué un peu plus tôt, on a parlé donc de l'ADEME et donc je vais vous parler du greenwashing un peu à travers l'ADEME. Donc selon l'ADEME, le terme de greenwashing est utilisé pour qualifier tout message publicitaire pouvant induire le public en erreur. Donc que ce soit sur la qualité écologique réelle d'un produit ou d'un service, ou alors sur la réalité de la démarche développement durable d'une organisation. L'ADEME a d'ailleurs développé un guide anti-greenwashing afin de permettre donc à toute entreprise d'effectuer facilement une rapide auto-évaluation de sa stratégie de communication afin de s'assurer qu'elle délivre donc la bonne information et présente convenablement son positionnement en matière d'écologie. Ce guide donc anti-greenwashing est un outil de sensibilisation, d'aide à la décision et à la création dans le respect des règles d'une communication plus responsable. Il s'adresse aussi à un public qui souhaiterait valoriser les qualités écologiques d'un produit ou d'un service, ou encore la démarche développement durable d'une entreprise ou d'un organisme sous forme de campagne d'information. De plus, l'ADEME travaille aussi régulièrement avec l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, aussi appelée ARPP, afin de limiter l'utilisation abusive des arguments dits « verts » dans les publicités. Toutefois, il est important donc de préciser que le greenwashing n'est pas une pratique anodine puisqu'elle est illégale en tant que pratique commerciale trompeuse. C'est une infraction passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Et cette amende peut être portée à 80% des dépenses engagées pour la réalisation donc de la publicité ou de la pratique qui est coupable de greenwashing. En outre, depuis le 1er janvier 2023 en France, le recours aux allégations relatives à la neutralité carbone sont sévèrement encadrés par la loi. En cas d'infraction, les organisations concernées sont passibles d'une amende de 100 000 euros. Donc, il existe différentes techniques de greenwashing, comme par exemple le détournement d'attention, le manque de transparence, le faux label, le mensonge frontal ou par omission, ou encore le packaging trompeur. Donc je vais vous donner maintenant un exemple concret de greenwashing. Donc cet exemple concerne une marque commercialisant des boissons qui utilise donc la technique du mensonge par omission. Donc je ne vais pas donner de nom de marque, mais je pense qu'en vous donnant l'exemple, vous aurez tous une image de marque qui viendra en tête. Donc cette marque se vante sur ses bouteilles que sa boisson est sans colorant, sans arôme artificiel. Vous l'aurez compris, beaucoup de marques ont adopté le même discours et se concentrent ainsi sur le peu de choses positives présentes dans la composition de leur boisson, Le but est évidemment de faire oublier aux consommateurs que le reste des ingrédients, eh ben, il n'est pas aussi bon pour leur santé et pour l'environnement que ce qu'ils prétendent. Et donc ici, en fait, on voit bien qu'ils ne donnent pas toute la vérité sur leurs produits. Et ben, ça, ça s'appelle un mensonge par omission. Donc maintenant, je vais vous donner 5 astuces pour reconnaître le greenwashing. Premièrement, il faut se méfier des discours qui sont évasifs. En effet, si les informations environnementales partagées par la marque sont évasives, non prouvées, alors ce manque de renseignements met en doute les véritables actions de la marque. Deuxièmement, il faut lire attentivement les étiquettes de ces produits. Alors promis, il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 10 en chimie pour décortiquer les étiquettes. La règle, elle est simple. Plus la liste des ingrédients et ou des composants est longue, plus ça sent le roussi. Troisièmement, ne vous fiez pas à la couleur verte d'un packaging. Beaucoup d'entreprises usent de ce stratagème, puisqu'en fait la couleur verte, elle est naturellement associée à la nature. Alors les entreprises, elles vont utiliser cette couleur pour créer une association d'idées entre le produit que la marque veut nous vendre et l'environnement. Cependant, ce n'est pas parce que l'emballage il est vert que le produit il est respectueux de l'environnement. Quatrièmement, il faut se renseigner pour connaître les vrais labels qui existent. En effet, certaines entreprises n'hésitent pas à créer le leur sans solliciter de contrôle de la part d'un organisme externe. En clair, elles vont s'auto-attribuer un label qu'elles ont elles-mêmes créé. Et si ce label ne fait pas l'objet donc, d'aucune vérification externe, eh ben, en fait, ça n'a aucune valeur juridique. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Et par exemple, parmi les labels de référence donc, qui garantissent un réel engagement en faveur de la protection de l'environnement, on va retrouver par exemple NF Environnement, Ecolabel, Officiel France, La Fleur ou encore AB. Cinquième et dernière astuce, il faut évaluer la cohérence entre le discours de la marque et ses actions. Parfois, les promesses écologiques faites par certaines entreprises sont incohérentes avec leurs actions. Prenons l'exemple d'une marque alimentaire qui se revendiquerait écologique. Si cette dernière emballe individuellement chacun de ses produits dans des sachets plastiques, déjà, c'est un peu loupé. Donc pour conclure, faire du greenwashing, évidemment, c'est malhonnête, mais c'est surtout néfaste pour l'environnement. Cette pratique ne nous incite pas, en tant que consommateurs, à adopter un mode de consommation plus responsable et peut même nous décourager. Elle peut également faire perdre des parts de marché aux entreprises œuvrant réellement dans le développement durable et contre le changement climatique, puisque souvent, les coûts que cette démarche a va se récupérer des fois sur le prix des produits, ce qui fait que les consommateurs ils vont être tentés d'acheter des produits qui sont moins chers mais moins respectueux que des produits qui sont plus chers mais respectueux de l'environnement. Et donc le greenwashing en fait ça joue énormément là-dessus. Et donc si on évite le greenwashing, eh bien on fait un pas vers un mode de vie plus éthique, plus responsable et on agit pour sauver notre planète.
Merci beaucoup Margot de nous avoir éclairé un peu plus à ce sujet. On va maintenant passer à une recoçon. Une nouvelle recosson, mais cette fois-ci, ça consistera pas en écoutant une musique, mais en vous faisant écouter des sons. Du coup, je vais vous faire écouter un premier son et vous allez me dire de quoi il s'agit.
Je pense que c'est. C'est extrait d'un milieu, enfin un son extrait d'un milieu urbain, genre en ville, je sais pas, près d'une garderie.
Ouais, on dirait un bébé qui pleure. Alors ça ressemble un peu à une chef qui crie, je trouve, mais non, pour moi, c'est un bébé qui pleure.
Oui, c'est ça que c'est censé représenter, mais au final, c'est un oiseau qui s'appelle l'oiseau lyre, qui reproduit ce son de manière vraiment presque identique, enfin on n'arrive pas à faire la différence. Donc c'est un oiseau originaire d'Australie du Sud, il est capable d'imiter les sons qu'il entend dans son environnement. Donc celui-là, c'était un oiseau qu'on a retrouvé dans un zoo, forcément, et donc il entendait les bébés pleurer, et il a réussi à reproduire ce son. Donc ce sont les mâles qui, pendant la saison des amours, reproduisent tout un tas de sons qu'ils entendent autour d'eux pour attirer les femelles, notamment les chants des autres oiseaux ou des bruits de singes, comme vous allez entendre.
Le singe trop stylé, cool.
Avec qui ils partagent la forêt, du coup. Ou des fois, ils imitent les sons d'autres espèces d'oiseaux, comme celui-là. Et donc, cela, ça va, mais il y a des sons qui sont un peu plus tristes, dans le sens qu'ils peuvent imiter certains sons qu'ils entendent, mais depuis l'espèce humaine, comme par exemple... au pire, vous allez deviner ce que c'est, ça. Dis-nous, c'est quoi?
En fait, je pense on dirait un peu genre les pistolets, genre pour c'est enfants, vous savez, ouais. Qui font piou, piou, piou,
ouais,
piou.
Ou des jeux vidéo, des trucs comme
ah,
ça.
Ah ouais.
C'est exactement ça. Et puis, il y en a un autre aussi, que je vais vous laisser écouter. Ok, bon. Un autre encore, alors? Peut-être celui d'après?
C'est fort.
Ouais, ça c'est une alarme quoi, genre.
Une alarme de voiture, c'est ça. Et donc c'est toujours les mêmes oiseaux qui font ces bruits-là, hein, juste en imitant. Et donc ça c'est permis parce qu'ils ont un organe vocal qui s'appelle le syrinx, qui est plus développé chez cette espèce d'oiseau-là que chez les autres. Et donc ils utilisent ces sons d'humains qu'ils entendent dans l'environnement pour se différencier des autres mâles et séduire davantage de femelles. Et il y a des sons qui sont un peu plus alarmants par contre. Donc on peut les entendre reproduire des sons de tronçonneuse ou de scie. Donc je vais vous laisser écouter. Donc on pourrait vraiment pas deviner que ce sont des oiseaux, mais ce sont bien des oiseaux qui reproduisent ces sons. Donc au final, cet animal avec ses chants, il dénonce un peu la déforestation et l'omniprésence de l'homme dans son écosystème. J'ai trouvé ça assez fou quand même, la capacité qu'ils ont de reproduire ces sons. Mais un peu triste du coup d'une certaine manière que ce soit des sons si peu naturels qu'ils sont capables de reproduire dorénavant quoi. Donc je vais maintenant laisser la parole à Souleymane, qui va nous présenter ses trois idées reçues, en rapport avec notre thème du jour.
Alors, l'étude de la DME examine différents scénarios liés à la transition énergétique et à la protection de l'environnement. Voici trois idées reçues courantes sur ces scénarios. Premièrement, la transition énergétique coûte plus cher. Certaines personnes pensent à tort que la transition vers des énergies renouvelables et une réduction des émissions de CO2 engendre des coûts plus élevés. En réalité, à long terme, ces actions peuvent s'avérer rentables grâce aux économies d'énergie et à la création d'emplois dans les secteurs verts et à la réduction des coûts liés au changement climatique. Deuxième idée, les énergies renouvelables ne sont pas fiables. Il existe une fausse idée que les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire ne peuvent pas garantir une alimentation électrique stable. Cependant, grâce aux avancées technologiques, ces sources d'énergie sont de plus en plus fiables et peuvent être combinées avec des solutions de stockage pour assurer une alimentation continue et stable. Troisième idée, la transition énergétique est un fardeau pour l'économie. Certains craignent que les politiques de transition énergétique nuisent à la croissance économique. Cependant, de nombreux pays ont montré que des politiques énergétiques durables peuvent stimuler l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois, tout en réduisant les impacts environnementaux. Voilà, c'était un aperçu des idées reçues sur la transition énergétique. Maintenant, je redonne la parole à Anna pour la suite de notre émission.
Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la troisième et la dernière grande chronique du jour, qui va nous être présentée par Louis. Et donc, c'est sur la pollution du bruit.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai oublié le jingle. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Alors, j'aurais une petite question à vous poser, chers camarades. Est-ce que vous savez tous ce qu'est le coût du bruit ?
Point par non.
Ok. Alors, je vais réexpliquer un peu pour vous et pour les auditeurs. Alors, pour comprendre ce qu'est le coût du bruit, il faut comprendre comment il est calculé. Alors, son évaluation est basée sur deux types de coûts liés au bruit. Les coûts marchands, qui correspondent aux dépenses directement quantifiables liées au bruit, tels que les rendez-vous chez le médecin, les dispositifs auditifs, etc. Et les coûts non marchands, estimés par la valorisation des années de vie en bonne santé perdues et de la mortalité prématurée du fait du bruit. Alors ce coût représente 86% du coût total, donc la majeure partie. Alors, d'après les estimations faites par la DME, avec l'appui du Conseil national du bruit, ce coût en France s'élève à environ 147 milliards d'euros par an. Alors, cela pourrait en choquer certains, mais le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en France, derrière la pollution atmosphérique. En effet, 20% de la population européenne, soit plus de 100 millions de personnes, est exposée de manière chronique à des niveaux de bruit mettant en jeu la santé humaine. Donc à l'aide du calcul de ce coût, on comprend que le principal levier sur lequel jouer est celui des dommages donc au niveau de la santé des citoyens. Maintenant, on pourrait se demander, et dans la continuité de l'analyse des scénarios de la DME, comment ces derniers appréhenderaient le problème et quelle solution serait la plus viable. Alors pour le premier scénario qui est génération frugale, on se rappelle que ce dernier prend le pari de revenir à un mode de vie beaucoup plus simple en effectuant des transformations dans nos domaines. Quand on sait que d'après l'ADME, 66,5% du coût du bruit est lié au transport et que ce scénario vise justement une baisse de la demande de mobilité par un fort retrait de la voiture et de l'avion et en favorisant les déplacements de proximité et le covoiturage, on voit que que génération frugale pourrait aisément intégrer le coût du bruit dans ses enjeux les plus importants. Alors pour le scénario coopération territoriale, on se rapproche un peu de ce qu'on a pu voir avec, concernant les transports. Néanmoins, on peut dire que ce scénario n'est pas le plus adapté à la résolution du problème. Celui-ci vise en effet la mise en place de partage de bâtiments impliquant donc plus d'habitants par mètre carré. Donc plus de bruit de voisinage, ce qui représente quand même 19% du coût total du bruit actuel. Le scénario vise aussi une accélération de la rénovation énergétique et la mise en place de systèmes de captation de carbone, ce qui est, encore une fois, source de nombreux bruits. Alors, le scénario de technologie verte, on se rend compte, encore une fois, que ce scénario n'intègre pas aisément le problème du coût du bruit. Avec la déconstruction de logements des logements actuels et la reconstruction de nouveaux logements, donc consommant des ressources plus naturelles, ça ne profiterait en aucun cas à une réduction du bruit. Alors pour les bruits liés au transport, on ne vise pas une baisse de la mobilité, mais une transition vers un mode de déplacement plus vert par l'introduction de véhicules électriques. Mais bien que ces derniers soient plus silencieux, l'industrialisation de masse du véhicule électrique serait encore une fois source de nombreux bruits au travail. Alors pour le dernier scénario, on comprend très vite que ce dernier ne va pas être le plus adapté non plus à la situation. Ce scénario pallie au problème des surémissions de carbone par la construction de puits de carbone technologiques et de l'utilisation de biomasse. De plus, il ne prévoit pas de réduction significative de l'utilisation de l'énergie dans l'industrie, pourtant source d'une partie importante du coût du bruit. Enfin, ce scénario prévoit une augmentation des kilomètres parcourus de 28% sous l'effet d'une hausse des voyages à longue distance. En se rappelant donc l'importance des transports dans le coût du bruit, on voit tout de suite où est le problème. J'en ai fini pour ma petite étude sur la gestion du coût du bruit vue par les différents scénarios et je peux donc remettre la palme du scénario le plus à même de pallier à ce problème au scénario génération frugale. On peut l'applaudir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je rends la parole à Anna.
Merci Louis. Il va être l'heure du débat. Donc on va donc passer quelques minutes à débattre tous ensemble sur un sujet évidemment lié au thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il sera introduit par Mehdi.
Alors plongeons-nous au cœur d'une discussion cruciale pour notre avenir, l'ingénierie soutenable. En tant qu'ingénieurs, nous avons le pouvoir et la responsabilité de façonner un avenir durable pour notre planète. L'ingénierie durable va bien au-delà de la simple conception technique. Elle englobe des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Donc je vais axer ce débat autour de trois principaux axes, ou deux en fonction du temps. Le premier axe, nous aborderons la manière dont les ingénieurs peuvent intégrer des principes de durabilité dès la phase de conception. Comment pouvons-nous repenser nos processus pour minimiser l'impact environnemental tout en répondant aux besoins croissants de la société? Donc, à votre avis, comment on peut rendre l'ingénierie plus durable et la conception de produits plus durables et de services?
Je pense que déjà, c'est en utilisant des matières... qu'on arrête avec les matières qu'on sait qui ne sont pas renouvelables, qu'on essaye d'avantager le recyclage et les nouveaux matériaux, ouais, que l'innovation ça aille vers de nouvelles choses plus durables et qui sont moins amenés à être jetés et à être consommés rapidement.
Ouais, voilà, dans l'idée, c'est de voir si on peut pas, en fait, dès le début de la conception, tout partir avec cet objectif que, en fait, tout ce qu'on va faire derrière soit dans une optique, justement, de recyclage, d'amélioration, etc. Et voilà, donc, du coup, comme Anna l'a déjà dit, cette optique, en fait, de recycler nos produits et de faire attention aux matières premières qu'on utilise, mais dès le départ, en fait.
En fait, il faudrait un changement vraiment global, c'est-à-dire que aujourd'hui, on pense l'innovation comme une manière d'améliorer en continu, d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, l'innovation d'un téléphone, c'est qu'il soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple d'utilisation, qu'on puisse tout faire de plus en plus rapidement. Et en fait, il faut changer cette mentalité d'un côté dans l'industrie en changeant le sens de l'innovation et aussi du côté des consommateurs en changeant... On va acheter un nouveau téléphone parce qu'il est plus rapide, machin, il a des meilleures capacités, mais parce que peut-être il est plus responsable.
Mais dans ce cas, pensez-vous qu'on peut blâmer le consommateur face à l'obsolescence programmée que toutes les marques de téléphone, d'ordinateur, de machine à laver, etc. met en place? Est-ce que l'ingénieur peut avoir un impact là-dessus, selon vous?
Moi, je pense que oui, parce que quand on parle d'obsolescence, par exemple, en fait, c'est un peu compliqué en tant que consommateur de dire que on va garder, par exemple, notre téléphone ou notre machine à laver, genre 20 ans, si au bout, de 5 ans, déjà, le téléphone, il fonctionne plus, ou que la machine à laver, quand tu la branches, elle prend feu. À un moment donné, c'est aussi compliqué en tant que consommateur de pouvoir garder ces appareils-là, s'ils fonctionnent plus. Après, s'ils fonctionnent toujours, mais juste on s'en débarrasse parce qu'on veut acheter la nouvelle version plus à la mode, plus connectée, là, oui, c'est du fait du consommateur. Mais si vraiment c'est parce que l'appareil, il fonctionne plus ou plus autant, ou vraiment il y a des fonctions importantes qui sont plus présentes, là, je pense que l'ingénieur, il peut jouer là-dessus aussi.
Très bien. Je vais enchaîner avec le deuxième thème sur la technologie comme moteur de changement durable. Donc, des avancées telles que les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle et la conception de matériaux écologiques offrent des solutions potentielles aux défis actuels. Alors, comment les ingénieurs peuvent-ils capitaliser sur ces innovations pour créer des solutions durables? Et quels sont les défis éthiques et sociétaux liés à l'adoption de ces technologies? Est-ce que, je vais peut-être reformuler... Est-ce que la technologie peut être un moteur de ce changement durable-là? Ou est-ce qu'elle n'est que facteur avec le technosolutionnisme? Est-ce qu'elle n'est que un frein, justement, à ce changement durable?
Moi, je pense pas qu'on puisse dire que c'est que un frein. Alors, en effet, il faut la remettre dans son contexte, la technologie, et comprendre que... il faut la comprendre au moins en partie pour pouvoir parvenir à l'utiliser de manière efficace dans cet objectif. Mais par contre, elle a aussi pas mal d'avantages. C'est sûr que sans basculer dans le technosolutionnisme, des technologies qui nous aident à atteindre plus facilement les objectifs environnementaux, ça existe. Et potentiellement, ça va se développer. Donc, on ne peut pas parier sur ça et être persuadé que ça suffira. Par contre, dire que ça n'a aucun intérêt, je pense que c'est une erreur aussi.
Il y a d'autres solutions, effectivement, qui sont évoquées, comme le low-tech, le fait de penser pas forcément à plus innover, mais mieux innover. Et donc, c'est des solutions que les ingénieurs seront amenés à penser. Et sur ce, je vais clore ce débat et laisser la parole à Anna pour la conclusion.
Donc, merci Mehdi pour nous avoir proposé ce débat. Donc, je pense que l'émission se termine. Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur la radio Graphite 94.9 et nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt sur cette radio.